Et maintenant, grâce à nos amis des Cinémas Lumière, nous consacrons une dizaine de minutes à une rencontre avec la réalisatrice Deborah Granik qui sort aujourd'hui Leave No Trace. Caroline, tu as pu rencontrer cette réalisatrice?
Alors oui, tout à fait Rémi. Vous connaissez sûrement Deborah Granik pour son film Winter's Bone qui avait reçu le grand prix du jury au festival Sundance 2010 et qui avait notamment révélé Jennifer Lawrence dans un drame familial sur fond de réseau criminel et de famille en difficulté. Et bien dans son nouveau film, Deborah Granik nous présente Will, un vétéran de la guerre d'Irak, ainsi que sa fille Tom. Donc les deux personnages vivent à l'écart dans ce qu'on appelle la wilderness américaine. Les deux sont toutefois découverts et pris en charge par les services sociaux. Ils éprouvent des difficultés à s'adapter à la civilisation et décident de retourner dans la forêt. Et ce qui suit dès lors est un combat entre le désir de vivre reclus, mais aussi le désir de communauté, ainsi qu'un combat entre une fille qui grandit et son père traumatisé. Lors de notre rencontre avec Deborah Granik, nous avons tout d'abord souhaité interroger la notion de trace, qui est présente dans son film, et son lien notamment avec la notion de traumatisme. En somme, quel rôle occupe la trace dans le film entre empreintes traumatiques et place de l'homme dans la nature?
We're so aware that it was important to him to teach her how to leave a very little trace.
Nous étions éminemment conscients de l'importance pour le père d'apprendre à sa fille à laisser très peu de traces. De façon très littérale, on est toujours attentif à la manière que l'on a d'utiliser un espace. Vous ne le détruisez pas, vous ne laissez pas de traces.
And then of course, the environmental.
Et puis, bien sûr, la dimension environnementale. Les parcs, les gens qui aiment aller dans la nature, ils prêtent une sorte de serment. Ils essaieront de laisser le moins de traces possible. Les parcs ont ces panneaux, vous savez, ne laissez aucune trace, une invitation, une demande. Ce sont des manières qui correspondaient au film, sans forcément partir dans la métaphore plus lourde du sens que vous suggériez. Il y avait donc quelque chose à propos de cette expression qui correspondait totalement au film. Cependant, si l'on pense à la notion de traumatisme, c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces à l'extérieur. Cela laisse des marques très profondes à l'intérieur, même lorsqu'une personne ne s'y attend pas. Cela fait jaillir des souvenirs. Ne laisser aucune trace dans notre psyché est tellement complexe. C'est évident pour l'extérieur, ne touche à rien. Mais à l'intérieur, vous ne pouvez demander cela à personne. Une expérience laissera toujours une trace.
You can never even ask that of experience. It will always leave a trace.
Nous avons ensuite voulu en savoir plus sur la tension qu'elle établit entre le désir d'indépendance, mais aussi le danger de l'isolement. Si Granik semble s'insérer dans la tradition philosophique américaine du retrait dans la forêt, l'isolement de ses personnages est ici compliqué, puisque lié au traumatisme du père. Faut-il dès lors vivre caché ou en société?
I mean, we've never solved that, you know. No country, no people, no time has ever, and people have been asking those questions since the first time we realized that people could be.
Nous n'avons jamais résolu cette question. Aucun pays, aucun peuple. Nous nous sommes posé cette question depuis que l'homme a commencé à penser, lorsque nous avons eu cette capacité de nous demander pourquoi agissons-nous ainsi. Je pense que le personnage, tel que je l'ai développé, avait déjà essayé d'être normal, en conformité, à faire ce qui a été attendu de nous tous. Remplir des formulaires, utiliser Internet pour correspondre avec le gouvernement, la municipalité, que ce soit pour conduire, louer un logement, payer des impôts, mettre ses enfants à l'école. Cette idée simple selon laquelle lorsque vous êtes considéré normal ne s'arrête jamais. Les attentes, les demandes, même si ce sont des choses auxquelles vous ne voulez pas prendre part, l'hyperconnectivité par exemple, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas de cette emprise sur votre cerveau, ce flot d'informations en continu lorsque vous vivez de manière standard. Vous avez vraiment peu de choix.
The metaphors of like every public space being wired is, you know, not to be dystopian about it, not to be
Vous savez, cette métaphore selon laquelle chaque espace public est connecté. Sans vouloir être dystopique à ce sujet, ou paniqué, ça n'est simplement pas ce qui l'attire. Ça n'est simplement pas une manière selon laquelle il souhaite vivre. Par ailleurs, il n'en est tout simplement pas capable. De façon totalement chimique, son cerveau ne répond pas à ce mode de vie, à ses règles. Il a donc choisi une vie tranquille, où il peut abandonner le matériel, ne pas être endetté, ne pas dépenser un argent qu'il n'a pas, ne pas désirer des choses qu'il n'a pas. Lorsque vous faisiez référence aux philosophes des siècles précédents, ce sont des notions totalement radicales. Et vous étiez en paix avec ce que vous possédez ? Il est incroyable de se dire que ces théoriciens, au début du siècle précédent, étaient déjà capables de nous mettre en garde face à ce déferlement. Walter Benjamin, Gramsci, ils nous le disaient. Faites attention, il y aura un type comme Wilson qui ne saura pas gérer la situation. Son personnage veut être en dehors de tout ça. Beaucoup de personnes veulent être en dehors de tout ça. Les consommateurs, la société de consommation, pour beaucoup, cela a ses limites, et il est très difficile de s'en défaire. On voit d'ailleurs qu'on le fait toujours revenir.
Nous avons également interrogé la réalisatrice sur la relation du père et de sa fille dans le film, son comportement vis-à-vis de la société et de la société de consommation en règle générale. La fille représente-t-elle un espoir de vie alternatif par rapport au désir du père ?
Il n'a pas trouvé de façon de retrouver le lien. Il n'est pas en accord avec la société qui l'entoure. Il le sait, c'est pour cela qu'il s'enfuit. La fille, quant à elle, est beaucoup plus capable de s'adapter. Elle se souviendra toujours de ce qu'il lui a appris. Elle pensera pour elle-même beaucoup. Elle saura toujours faire la différence entre le désir et le besoin. Il a réussi à lui apprendre beaucoup de choses. La meilleure chose dans tout cela est qu'elle peut avoir des pensées plus solides, sur lesquelles se baser, tout en réussissant à s'adapter à une communauté qu'elle aura choisie. Une communauté constituée de personnes qui elles-mêmes auront cherché une forme d'alternative. Ils ne veulent pas le forfait business intégral dont on a l'habitude.
Enfin, nous sommes interrogés sur le genre même du film, qui nous semblait naviguer entre documentaire et fiction.
Je sais que j'utilise les méthodes du documentaire. Je filme des vraies personnes en train de réaliser de vraies activités. Je demande aussi à des personnes du métier de m'aider dans la rédaction du script, le vérifier, de corriger mes idées. J'ai demandé, par exemple, à des vétérans ce que ça faisait de prendre les médicaments qu'on leur donnait et de subir leur inefficacité. Les acteurs en bénéficient d'ailleurs, de vrais agents, de vrais apiculteurs. Documentaire et fiction entretiennent à mes yeux une relation quasi symbiotique. Oui, ils ont beaucoup à s'apporter l'un à l'autre.
Merci beaucoup Caroline et puis merci donc au Cinéma Lumière pour nous avoir permis de réaliser cet entretien. Le film s'appelle donc Leave No Trace et sort aujourd'hui.